Bonjour Frédéric Huttmann au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. J'ai le très très grand plaisir de recevoir Florian Noack. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'avais déjà eu l'occasion de vous recevoir pour la parution notamment d'un très très beau disque consacré à Liapounov et puis un disque consacré à Prokofiev. Et là, c'est un tout autre domaine, quoique pas toujours éloigné, qu'on aborde. C'est un disque qui vient de paraître pour la Dolce Volta avec déjà un magnifique accueil. Consacré à vos propres transcriptions d'œuvres. Il n'y a pas que des transcriptions, il y a aussi des paraphrases,
C'est vrai.
mais on va en parler. Et ça s'ouvre, Florian Noack, par une œuvre dont vous m'aviez parlé déjà il y a fort longtemps, quand on s'était vu, cette transcription du concerto pour quatre claviers de Bach, qui est visiblement une œuvre fétiche pour vous.
Ce concerto pour quatre clavecins, c'est évidemment un challenge puisque c'est d'abord c'est le jeu de suggérer quatre clavecins et l'accompagnement d'orchestre d'accord à cordes, donc en un seul piano. Puis il y a aussi tout le plaisir de ce baroque qui a inspiré l'Italie, puisque c'est à l'origine une œuvre de Vivaldi que Bach a réarrangée
Donc c'est une
lui-même.
transcription de transcription.
Exactement. Pour moi, c'est quelque chose qui montre. Enfin, le fait que Bach l'ait fait lui-même, c'est un argument pour dire que voilà, même pour des gens comme lui, une œuvre pouvait exister sous différentes identités. Et donc voilà, mais c'est aussi une plongée dans toute l'excitation et la verve de ce baroque italien qui est très, très jouissif aussi à jouer.
Il y a d'autres œuvres de Bach que vous avez transcrites,
Oui, j'ai fait le
Florian
troisième
Noack?
concerto brandebourgeois aussi.
Ah oui, ça c'est pas encore
C'est pas
enregistré.
encore enregistré. J'ai joué
On
quelques fois
aimerait
en
bien.
concert, mais c'est sacrément difficile.
Et pourquoi celui-là en particulier, parmi les six
Mais en fait, il est pas très long. Déjà, le format s'y prêtait bien. Et je dois dire que le final est aussi extrêmement charmant et très agréable à jouer. Donc c'est voilà. C'était une œuvre que j'avais envie d'essayer, voir si ça pouvait marcher.
Il y a dans le mouvement lent du concerto pour quatre claviers de Bach que vous avez transcrit, il y a un moment purement magique. Bon, quand on l'entend au clavecin
Oui,
ou au piano
c'est une
avec
sorte de
l'orchestre.
passage où ça module vers
Oui,
des
c'est
harmonies
ça.
éloignées sur un fond d'arpège.
C'est totalement un rêve
Oui.
ce moment. Comment vous avez fait pour transcrire ça entre l'orchestre, les quatre claviers,
Mais
c'est incompréhensible.
en fait, ça, c'est une transcription qui est, on va dire, plus facile à réaliser parce qu'il y a moins d'ajouts. C'est-à-dire que c'est une transcription où le matériau de base est extrêmement riche et les choix qui sont quand même créatifs, mais les choix, c'est qu'est-ce qu'on garde, comment et comment est-ce que ça tient en 10 doigts. Il y a d'autres transcriptions où la difficulté c'est qu'est-ce qu'on rajoute, comment est-ce qu'on crée la texture, comment est-ce qu'on suggère l'orchestre. Et ça pour moi c'est plus difficile d'une certaine manière. Le Bach c'était plus un jeu d'adresse. Je pense que. Je crois que la créativité était voilà, plus dans le fait de faire les bons choix simplement.
C'est une de vos premières transcriptions, en fait.
C'est ma première transcription qui n'était pas de la musique romantique russe. J'avais fait beaucoup de Tchaïkovski, de Rachmaninov, de Rimsky-Korsakov. Et à un moment, j'ai commencé à vouloir aller vers autre chose et je me suis dit, tentons du baroque, et c'était ça.
Cet amour de la musique russe qui transparaît dans vos enregistrements et dans votre répertoire. On va parler du premier concerto pour piano et orchestre de Mettner que vous allez donner bientôt à plusieurs occasions et dans plusieurs villes. Ça vous vient de Claudio Martinez Mettner, dont vous parlez dans le livret qui accompagne ce
Non, parce
disque?
que c'était déjà bien avant d'étudier avec lui. Donc j'ai eu effectivement un professeur russe qui s'appelait Vassili Lobanov, qui a joué pendant quelques années à deux pianos avec Richter, qui jouait avec Natalia Gutman, Yuri Bashmet, qui faisait partie
Alors
un
ça va,
peu
il
de.
choisit bien ses partenaires.
Oui, c'était un grand chambriste qui était très bien entouré et qui était aussi un compositeur. Il avait étudié avec Schnittke, il connaissait Shostakovich, etc. Donc, mais lui-même n'était. J'ai même l'impression que c'était déjà antérieur au fait d'étudier avec lui. Je crois que c'était vraiment. En fait, je crois que c'était un peu la découverte de Mettner, que j'ai découvert assez jeune, à 14 ans. Puis très tôt après Liapounov. Et puis évidemment, dans la foulée, Rachmaninov. Et donc, je crois que très tôt, et même avant de rencontrer Lobanov, j'étais déjà un petit peu attiré vers cet univers-là.
Mettner, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas forcément, donc c'est ce contemporain presque de Rachmaninov,
Tout à fait.
compositeur d'origine allemande mais russe, dont la musique est absolument sublime, mais aussi difficile que celle de Rachmaninov à interpréter.
Et peut-être un peu plus difficile à entendre aussi.
C'est ça, il n'y a pas ce côté immédiatement séduisant de Rachmaninov qui est immédiatement payant pour le pianiste.
Oui, tout à fait. En fait, Mettner a des thèmes d'une beauté tout à fait équivalente à ceux de Rachmaninov, mais la manière dont il les traite et il les travaille est beaucoup plus technique, plus germanique, on va dire, on l'appelait le Brahms russe à l'époque. Et donc c'est en général assez enchevêtré, assez intriqué comme musique, et effectivement c'est un petit peu moins immédiat. Mais il y a un fond de lyrisme et de romantisme qui qui est assez commun aux deux hommes.
Vous allez interpréter, donc, je le disais, en plusieurs lieux, son premier concerto pour piano et orchestre. On vous l'a demandé ou c'est vous qui l'avez proposé?
Non, c'est moi qui l'ai proposé et j'étais on peut plus ravi que le directeur artistique, le directeur pardon, de l'Orchestre National de Belgique. Il dit « Ah mais ça tombe bien, j'adore Metner, quand est-ce qu'on le fait quoi ?» Et ça c'est quand même assez rare et c'est pas tous les jours qu'un orchestre prend le risque de programmer un grand concerto comme ça qui est un petit peu moins connu. Mais c'est un chef-d'œuvre, donc moi je ne demande vraiment pas mieux que de le jouer.
Avec une orchestration qui doit être assez touffue, oui. Jugé par les autres œuvres de Metner.
Si, si, c'est vraiment.
Pour l'orchestre, ça ne doit pas être facile non plus.
J'imagine que non. Mais voilà, ça on va découvrir aux premières répétitions.
Ça va être une prise de rôle ou vous avez déjà interprété ce concerto?
Non, je suis en train de l'apprendre, donc voilà.
Alors comment vous faites, on vous propose une œuvre ou vous choisissez d'interpréter une œuvre, comment vous travaillez en fait? Vous lisez dans votre coin sans piano, après vous mettez au piano ou alors vous abordez tout de suite au piano?
Non, le concerto de Metner ici c'est une œuvre que j'aime depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans et que donc ça fait...
Excusez-moi de vous interrompre, vous l'avez connu comment
En fait, donc Metner j'ai découvert par le dictionnaire de Guy Sacre, la musique de piano. Mais ça, c'est une musique qui ne traite que du répertoire pour piano seul. Et j'en ai parlé à un ami plus âgé, qui est un ami de mon professeur de piano à l'époque, en académie en Belgique, qui adorait Metner. Et c'est lui qui m'a dit, il y a une chose incroyable de Metner, c'est le premier concerto. Écoute-le, le début, c'est quelque chose qui m'a marqué pour toute ma vie. Et donc c'est vrai que voilà, j'étais un peu orienté vers ce concerto. Et c'est vrai que c'est un concerto dont le début est très marquant. Et, comme celui du deuxième concerto de Rachmaninov, c'est un début qui claque un petit peu et c'est... Oui, ça, c'est quelque chose auquel on s'identifie assez vite quand on est ado et un peu tourmenté.
Ah bah vous donnez une folle envie de l'écouter, Florian Noack, et on espère que vous allez l'enregistrer bientôt. En tout cas, je crois que vous m'avez dit qu'il y a des versions qu'on peut acquérir quand même, bien
oui,
qu'il ne soit pas foisonnant.
Mais en tout cas, il y a pas mal de versions qui existent. Je pense qu'il y a Yevgeny Soudbin qui l'a enregistré, Konstantin Cherbakov, qui est la version que moi j'écoutais beaucoup étant jeune.
Enfin, on peut, voilà, on peut se procurer ce concerto parce que vous donnez vraiment une forte envie de l'écouter, Florian Noack. Mais vous aviez des origines russes ou pas du tout?
Pas du tout. J'ai des origines est-allemandes, de la frontière avec la Pologne, mais pas d'origine...
Donc c'est un lien amoureux qui est tombé sur vous comme
voilà,
ça.
Voilà, un petit peu. En fait, le lien, c'est un peu bête. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais quand j'étais petit, ma grand-mère, on écoutait beaucoup des disques d'Ivan Rebrov, des 33 tours. Alors, Ivan Rebrov n'a rien de russe, si je me souviens bien, il est tout à fait allemand. Mais dans ma tête...
Oui, il était lié quand même.
Bah oui, il a chanté tous les chants cosaques, etc. Oui. Et bon, voilà, ces images de 33 tours avec sa toque de fourrure, sa barbe et son uniforme cosaque, pour moi, c'était un peu la Russie, quoi. Donc, étant petit, ça me fascinait. Est-ce que c'est ça qui a fait que plus tard, je me suis resté proche de cette musique? Je ne sais pas très bien.
Alors, ce qui est dit dans le texte qui accompagne ce disque, c'est que entre deux tournées de concerts, ce que vous aimez beaucoup, c'est transcrire. Ça vous vient de quoi? Vous estimez que le répertoire pour piano qui est déjà gigantesque, il manque encore des pierres à ajouter?
Non, pas du tout. Le piano, il faudrait plusieurs vies pour traverser son répertoire. Non, c'est... Je crois que c'est un peu né de plusieurs choses. Donc j'ai commencé à transcrire quand j'avais 16 ans, ma première vraie grande transcription, qui était Roméo et Juliette de Tchaïkovski.
Ah déjà, le grand répertoire.
Oui, c'était un challenge, mais c'était... voilà, il y avait le plaisir d'écrire de la musique. Il y avait le plaisir d'écrire de la musique, entre guillemets, qui existe déjà sur une base dont on sait qu'elle est bonne, alors que quand on compose soi-même, on ne sait jamais très bien, enfin quand on est jeune, adolescent et qu'on n'a jamais suivi de cours de composition. Et je sais que moi j'aimais beaucoup, quand j'écrivais, j'aimais beaucoup passer du temps à voir comment habiller, comment décorer, comment enjoliver un thème que j'avais trouvé. Et ça en fait c'est exactement le jeu de la transcription, c'est-à-dire on a un matériau qui est donné, qu'on choisit donc a priori qu'on aime, et la question c'est comment est-ce qu'on l'habille. Et ça c'est quelque chose pour lequel j'avais pas mal d'idées. J'avais aussi l'envie d'expérimenter des choses techniques, entre guillemets, en me disant tiens ça pourrait marcher, ça pourrait peut-être donner certaines choses. J'avais aussi un peu l'envie de me confronter à moi-même, ce que j'étais capable de faire avec 10 doigts. Et puis j'avais aussi très envie de m'approprier une œuvre que j'aimais bien et que je ne pouvais pas jouer puisqu'elle n'était pas écrite pour mon instrument. Et donc la récompense immédiate de la transcription, c'est j'ai écrit 4 mesures, je peux m'asseoir au piano, je teste les 4 mesures et maintenant c'est un peu à moi quoi.
C'est intéressant parce qu'il faut trouver des équivalences au son de l'orchestre aussi, c'est pas seulement la mélodie, la transcription.
Oui, en tout cas c'est des équivalences. Oui. Bah, je pense qu'un piano ne sonnera jamais comme un hautbois ou un cor, mais ce qu'on peut, on peut donner l'impression que le piano a autant de couleurs ou de registres ou de textures différentes qu'en aurait un orchestre, simplement.
Alors ce disque, il vient de paraître pour le label Dolce Volta qui s'appelle I Wanna Be Like You, qui est donc cette chanson extraite du Livre de la Jungle qui termine ce disque, une sorte de clin d'œil, on en parlera. Mais donc que des transcriptions que vous avez faites avec beaucoup d'inédits. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez essayé de transcrire ou les adorer et puis hein, ça ne va pas, vous travaillez et puis au bout d'un moment vous renoncez en vous disant non, par exemple, je sais pas, une symphonie de Mahler ou qui est pas votre répertoire.
Non, alors je crois que je choisis assez bien des œuvres dont je pense vraiment que c'est possible. Je sais qu'il y a une œuvre que j'ai commencé et que j'ai pas finie. Je pense qu'elle est faisable, mais il y a une question qui est pas tout à fait résolue pour moi au début, c'est l'ouverture de Manfred de Schumann. Alors je pense qu'une fois que la partie rapide s'enclenche, il y a aucun souci. Mais la partie lente est différente parce qu'on a besoin d'étoffer pour avoir l'ampleur de l'orchestre. Et en même temps, c'est le genre de musique où quand on étoffe au piano, ça sonne comme quelque chose d'autre, ça sonne un peu décoratif, parce que ça n'est pas du tout à l'orchestre. Et donc voilà, ça c'est par exemple une œuvre où je vais sans doute la reprendre un jour, mais il y a un petit point d'interrogation quand même.
Alors vous avez choisi parmi toutes les œuvres de ce disque, une œuvre de Félix Mendelssohn qui n'est pas l'œuvre qu'on entend le plus au concert, qui est la première nuit de Walpurgis, donc une œuvre pour chœur et orchestre qu'on entend assez peu, qui est absolument merveilleuse. Vous vous dites que vous l'avez connue parce que vous étiez dans le chœur.
Oui, en fait, au conservatoire de Cologne où j'ai fait mes études, en première année, les bachelors devaient faire deux projets de chœur. Et donc moi, le premier semestre, je m'étais retrouvé dans le chœur. Alors, quand ils avaient demandé qui était ténor et qui était baryton, ben, voyant qu'il y avait trois personnes qui avaient levé la main pour être ténor, je me suis dit que j'allais faire plutôt les basses avec les 40 autres. Donc voilà, je me suis retrouvé dans ce chœur. Et c'est vrai que j'ai découvert cette cantate. Du coup, on l'a travaillé pendant un semestre avec un chœur d'étudiants. Donc c'était un chœur tout à fait amateur et l'orchestre des étudiants. Mais c'est un Mendelssohn quand même assez étonnant, qui est un peu plus âpre, un peu plus sombre, disons, que l'image un peu d'épinal qu'on pourrait avoir du compositeur, dont je pense qu'elle n'est pas vraie du tout. C'est quand même une œuvre qui est assez extravagante, assez intense. Donc c'est basé sur un texte de Goethe qui traite en fait de, entre guillemets, de la tension entre les communautés païennes qui pratiquent encore des rituels païens qui sont petit à petit expulsés par la montée du christianisme. Et donc je pense que dans cette image de rituel païen, Mendelssohn a vu des idées un peu de musique un petit peu diabolique ou un peu des évocations de sorcières qui visiblement l'attiraient beaucoup. J'ai lu aussi qu'évidemment, on pouvait y voir aussi un sujet un petit peu autobiographique.
Par rapport à ses origines juives.
Par rapport à ses origines.
Et la conversion de son père.
Exactement.
Au protestantisme.
En tout cas, c'est une œuvre visiblement importante. Je crois qu'il l'a écrite assez jeune. J'ai peur de dire une bêtise. Et je pense qu'il l'a retravaillée plus tard.
Comme le songe venu de l'été.
Exactement. Et je me demande, je crois que c'est mon épouse qui m'a dit, je me demande si Fanny Mendelssohn, elle n'est pas morte après une répétition de la nuit de Walpurgis, justement.
Alors, ça, ce sera vérifié.
On
va se commander le premier concerto de Mettner et on va relire la biographie de Fanny Mendelssohn. Il y a une très belle biographie par Gianenti. Okay.
Hein. En tout cas, je crois qu'elle dirigeait, elle répétait la pièce en tant que chef d'orchestre. Donc, voilà.
Bah écoutez, en tout cas, c'est magnifique. Mais alors là, vous transcrivez l'orchestre, vous transcrivez les chœurs. Donc c'est...
Oui, et en fait, ça pour la
vous ajoutez la difficulté à la difficulté.
Il y a deux pièces dans le disque que j'avais décidé assez tard en fait de rajouter à l'enregistrement, mais donc ça voulait dire de les transcrire, ce qui fait que j'ai travaillé vraiment jusqu'au matin de l'enregistrement, qui était donc cette nuit de Walpurgis de Mendelssohn que j'avais en tête depuis très longtemps. Et à un moment, je me suis allé, c'est dommage de pas l'inclure. Et alors les danseries de Suzzato, qui sont trois petites pièces de la Renaissance, je me disais tiens, c'est encore une facette complètement différente et ça manquerait peut-être si ça n'était pas dans le CD.
Alors, comment vous faites quand vous procédez à ces transcriptions? C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup le disque? Vous prenez la partition d'orchestre sans écouter le disque?
Non, je fonctionne vraiment à l'oreille, parce que je crois que ce qui est important, c'est l'illusion. C'est-à-dire, quand on voit la partition, quand on voit comment c'est écrit à l'orchestre, il y a toujours le danger qui est la tentation de transcrire littéralement. On voit comment c'est écrit et on reproduit ça. Mais le problème, c'est que la manière dont c'est écrit, c'est pas du tout la manière dont ça sonne. Et donc, je préfère partir vraiment du son, sans trop savoir à quoi ça ressemble, à quoi la partition ressemble, et me dire, tiens, ce genre de sonorité, comment est-ce que je pourrais les traduire au piano? Et en fait, la partition d'orchestre, elle arrive assez tard dans le processus.
Mais ce qui est intéressant dans la transcription, c'est que si on confie la même œuvre à 10 pianistes différents, ils vont donner 10 transcriptions différentes.
Oui,
c'est votre perception autant que l'œuvre en elle-même, c'est ça?
Oui, et puis voilà, moi j'écris aussi la transcription pour la jouer moi-même, donc je l'écris aussi un peu en fonction de mes facilités, de mes lacunes techniques pour que ça me convienne. Donc il y a certains, par exemple les trémolos, c'est quelque chose que moi j'utilise pas parce que c'est pas quelque chose que j'aime en tant que pianiste, simplement.
Quand vous jouez une sonate de Beethoven, par exemple, les trémolos dans les sonates de
Beethoven,
il y en a
pas tellement,
quelle signification ?
Mais les basses d'Albert, mais par exemple dans les transcriptions d'orchestre, souvent pour créer un peu le tapis, les cordes, etc. Souvent les transcripteurs utilisent cet outil-là, et moi je l'évite un petit peu, par exemple, j'utilise d'autres choses, quoi.
Florian Novak, après, il y a cette transcription donc, de Scheherazade, de Rimsky-Korsakov. Ça aussi, c'est une œuvre vers laquelle vous vous êtes tourné beaucoup, puisqu'on en avait déjà parlé lors de précédents entretiens. C'est une œuvre qui vous fascine, ça?
Oui, mais c'était aussi une des œuvres où que j'ai un des challenges de jeunesse. Donc, je crois que je l'ai écrite quand j'avais 20 ans. J'ai terminé à 20 ans, ça m'a mis 2 ans pour l'écrire. Et de nouveau, c'est un petit peu le challenge. On a une œuvre qui est extrêmement orchestral dans la parure, dans les couleurs.
Et puis il y a le violon aussi qui a cette part centrale.
Exactement. Et en même temps, il y a ce côté tellement, on va dire, luxuriant et riche et ornementé, que ça, je pense, c'est quelque chose qu'on peut traduire au piano sans dénaturer l'œuvre. Parce que du coup, au piano, on peut avoir quelque chose de luxuriant, on peut avoir quelque chose de riche. On a l'espace pour suggérer l'orchestre et on n'est pas en train de trahir l'essence de l'œuvre. Voilà, alors que je pense que dans peut-être d'autres œuvres, voilà, tout à l'heure on parlait de Manfred, de Schumann, si on rajoute des choses, ça peut devenir rutilant dans une musique qui ne l'est pas au départ.
Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Rimsky-Korsakov, je ne connais pas d'œuvre pour piano de Rimsky-Korsakov.
Il y a un petit concerto en un mouvement.
Ah oui.
Et quelques œuvres de jeunesse.
Il y a un sextuor aussi pour piano.
Il y a un quintet avant.
Oui, pardon. Mais c'est pas le compositeur
non.
du piano. Donc,
pas du tout.
Quand vous transcrivez par exemple la première symphonie de Prokofiev, vous connaissez la littérature. D'ailleurs, vous avez enregistré un disque consacré des œuvres de Prokofiev pour piano, la sixième sonate et les visions fugitives, si je ne me trompe
tout
pas.
Tout à fait.
Donc, vous connaissez l'univers pianistique de Prokofiev. Vous pouvez peut-être raccrocher aussi cette transcription à son univers pianistique. Pour Rimsky-Korsakov, non, c'est pas le cas.
Non, mais ça, enfin, peut-être dans certains cas, avec certains compositeurs, j'essaye de faire en sorte que ça ressemble à une œuvre pour piano qu'ils auraient pu écrire. Mais c'est pas forcément ça dont je me soucie. Je me dis, voilà, quitte à ce que ça ne ressemble pas à des œuvres du compositeur, ce qu'il faut simplement, c'est qu'on reconnaisse à quoi ça fait référence. D'une manière ou d'une autre.
Ce qui est très intéressant pour nous, auditeurs, dans les transcriptions, parce qu'on pourrait se dire, avant la transcription, c'était principalement des gens qui n'avaient pas de disque ou de radio et qui, pour jouer chez eux des œuvres orchestrales, eh ben, ils faisaient transcrire ou ils lisaient des transcriptions pour pouvoir avoir le bonheur de les écouter. Aujourd'hui, on peut écouter la première symphonie de Prokofiev avec orchestre au disque ou chez Scheherazade ou les autres. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que on pourrait se dire à quoi bon. Et en fait, c'est super, très très intéressant parce que ça nous donne un éclairage complètement différent sur l'œuvre. Et c'est indispensable aussi d'écouter ce que vous faites, Florian Novak. Ça complète l'écoute qu'on peut avoir, en fait.
Mais merci beaucoup. En fait, pour être tout à fait honnête, les transcriptions, je les fais d'abord et avant tout essentiellement pour moi.
C'est pour le concert aussi.
Voilà, mais c'est quelque chose de très égoïste. Après, il se trouve que je remarque que beaucoup de gens s'y intéressent, même s'intéressent aux partitions, que ça a créé une communauté de passionnés de piano qui suivent ça. Mais c'est vrai que du coup, la question de la nécessité, pourquoi alors qu'on peut écouter ça par un excellent orchestre dans son salon, en fait, je me la suis jamais posée parce que j'avais juste envie de le faire et c'est tout. Alors c'est vrai qu'évidemment, le piano, je ne suis pas le premier à le dire, c'est aussi quelque chose qui peut... qui peut révéler une œuvre différemment. Enfin, la transcription en général, quel que soit l'instrument. Par exemple, le piano, il y a quand même une nature plus percussive dans l'instrument, quoi qu'on fasse. Et donc, il y a une forme de collision, en fait, dans le son même du piano. Ce qui fait que parfois, certaines harmonies, moi, je les ressens de manière plus directe au piano que quand c'est dans une sorte d'ampleur symphonique. Mais ça, c'est très personnel. Je dirais pas que c'est un plus ou un moins, c'est juste que c'est autre chose. Et voilà, c'est vrai qu'on offre son propre regard, et puis parfois dans le cas d'œuvres moins connues comme La Nuit de Walpurgis de Mendelssohn, finalement, ça donne quand même l'occasion de la jouer beaucoup en concert, ce qui n'est pas le cas de l'œuvre originale.
Ça va
en fait
donner envie de l'écouter à l'orchestre. Non, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous ajoutez au travail du compositeur, mais vous nous révélez en fait son travail à l'impression. Quand on écoute une transcription d'une symphonie de Beethoven, on découvre un peu ce qu'il y a derrière l'orchestration. Alors que même, ça peut être Liszt ou vous, qui avez fait la transcription. Et donc,
Mais il y a aussi, je pense, toute une catégorie d'œuvres qui ont été écrites au piano et ensuite orchestré. Et donc, je crois que c'est le cas pour des ballets de Tchaïkovski. Enfin, je pense pour plein d'œuvres orchestrales, je ne veux pas m'avancer là-dessus.
Non, mais
je suis pas
spécialisé. Mélisande de Debussy, qui a par exemple été donné récemment Date de la Tenue dans une version qu'il avait lui-même écrite au piano.
Ah oui, ok, j'ignorais.
Donc, effectivement, ça donne une idée. Autre.
Donc, parfois, quelque part, on. Enfin, ça m'est même une fois arrivé de, dans un autre disque de jouer. Donc, c'était Martucci qui avait écrit une pièce pour piano. Ensuite, il l'a orchestrée. Et moi, je l'ai réécrite pour piano, mais sur base de son orchestration, en fait. Voilà, je pense qu'on. Enfin voilà, c'est un peu cette idée du concerto pour quatre clavecins de Bach d'après Vivaldi. Je crois qu'une œuvre peut exister sous différents costumes et différents déguisements simplement.
Alors il n'y a pas seulement des transcriptions, il y a cette paraphrase sur des valses de Johann Strauss. Donc la paraphrase, ce n'est pas vraiment de la transcription. La paraphrase, c'est façon Liszt, c'est quelqu'un qui s'empare des thèmes et puis qui va donner ses propres développements.
Oui, là, il y a eu vraiment un
travail de création.
La pièce n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de plein de valses différentes, des thèmes que j'ai choisis, que j'ai compilés, souvent des valses un petit peu moins connues. Il y a une introduction, par exemple, un peu en boîte à musique, qui là est juste une petite intro que j'avais composée. Enfin, c'est rien de spectaculaire, mais je veux dire, là, il y a vraiment des choses qui me sont propres et qui ne correspondent pas à une pièce qui existe déjà au départ, quoi.
Alors, Florian Noack, on connaît votre énorme curiosité, votre amour de la musique russe, ce répertoire énorme que vous interprétez. Alors moi, si j'ai un souhait, j'aimerais bien vous écouter dans une sonate de Beethoven ou dans du Schumann ou dans un répertoire justement où on vous connaît moins finalement.
En fait, le répertoire que j'enregistre est pas forcément du tout celui que je joue en concert. Par exemple, là, je pars aux États-Unis et je vais jouer la sonate en si bémol majeur de Schubert, des études transcendantes de Liszt.
Ça, j'aimerais bien être là.
Donc, je joue des compositeurs connus. Schumann, c'est un compositeur que j'ai beaucoup joué. J'avais, voilà, je mets un petit peu en avant. J'avais gagné même le deuxième prix du concours Schumann quand j'étais plus jeune. Donc, c'est vraiment un compositeur que je joue énormément et qui est très proche. Après, en disque, on réfléchit un petit peu différemment. Là, c'est vrai que j'ai plein de projets un peu personnels que personne d'autre ne fait, donc ça c'est quelque chose qui a peut-être une petite priorité. Des compositeurs comme Lyapunov, que voilà, plein d'œuvres qui n'ont jamais été enregistrées. C'est vrai que là je donne une petite priorité à ça, mais en concert, moi j'adore ces compositeurs-là. Donc,
Ce qui est très intéressant, c'est le rapport entre la virtuosité, parce que la virtuosité, c'est pas uniquement avoir des moyens techniques importants, c'est aussi exercer une certaine fascination. Enfin, il y a quelque chose dans la virtuosité qui est pas du ressort de la technique uniquement. Ça, c'est un mélange de musique et de technique.
Et c'est, je pense, le bon adjectif pour moi, c'est celui que Liszt et Lyapunov donnent à leurs études, c'est le mot de transcendance. C'est-à-dire que oui, c'est une difficulté mécanique, une difficulté digitale ou instrumentale. Mais en fait, il y a un peu une sorte de processus alchimique où, grâce à cette difficulté, on atteint quelque chose, on atteint une évocation, on atteint des textures, on atteint des sonorités qu'on n'aurait pas pu avoir sans ça. Et donc, pour moi, c'est un peu un élément, oui, c'est un peu un élément de. Ça fait un peu partie de la magie, de l'illusion, de ce qu'on peut suggérer avec un piano.
Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à une famille de pianistes du 19e siècle, justement, qui a cet amour de la transcription, cet amour d'une certaine virtuosité?
En tout cas, c'est clair que
Hoffmann ou d'autres.
C'est vrai que c'est les pianistes que j'écoute le plus, c'est quand même les pianistes de la fin du 19e, début 20e.
Oui, mais on a l'impression qu'il y a une certaine filiation avec vous.
Bah, ça me fait très plaisir. Voilà. En tout cas, des Rosenthal, des Cortot,
oui,
des Hoffmann, des gens comme ça, c'est Rachmaninov, évidemment, c'est tous des.
Ce sont des pianistes que vous écoutiez enfant
Non, même pas en fait. C'est des choses qui sont venues un petit peu après. C'est des choses qui sont venues un petit peu après et pas par le biais de la transcription, par les cours que j'ai eu avec Ferenc Radosch. Et j'ai commencé un peu à revenir à des pianistes vraiment des générations bien éloignées de nous. Je pense aussi à Samuel Feinberg, par exemple, qui est compositeur aussi, qui a des Scriabines qui sont à tomber par terre. J'ai l'impression que c'était peut-être des générations où, voilà, où on était encore très proche des compositeurs et de cette musique qui était une langue vivante et qui n'était pas quelque chose de muséifié. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est une esthétique dans laquelle je me retrouve très bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pieds. Enfin, en tout cas, je pense à Benjamin Grosvenor, par exemple, qui, je crois, me semble être aussi assez proche de cette esthétique-là.
Ou peut-être Nelson Gurner parfois aussi, dans certains bis, ou dans certaines... Il a un amour aussi de cette filiation. Mais justement, dans votre sonorité, qui est magnifique, on reconnaît aussi ce jeu. Aussi, on a l'impression qu'il y a chez vous une grande recherche au niveau du son, Florian Noack. C'est peut-être une recherche inconsciente.
En fait, je pense qu'il y a eu ça très fort quand j'étais adolescent, parce que ce qui a fait que j'ai été étudié avec Lobanov, c'est parce que je trouvais qu'il avait une qualité de sonorité, enfin, sa qualité de son au piano était fabuleuse. Maintenant, c'est vrai que j'y prête moins attention, parce que je me dis que c'est moins le... Enfin, c'est peut-être moins le timbre d'une voix qui est intéressant que ce qui est raconté, finalement, et c'est peut-être un peu pareil au piano. Enfin, c'est peut-être moins la qualité de son que la rhétorique ou que le discours. Mais j'imagine que cette attention que j'y ai un moment apportée quand j'étais plus jeune, sans doute qu'il y a quelque chose qui en reste.
Alors, ce disque se termine par une transcription « I Wanna Be Like You » qui donne son titre au disque d'extrait du Livre de la Jungle. Donc après toutes ces œuvres, ces grands chefs-d'œuvre, on passe de Bach à Mendelssohn, Rimsky-Korsakov, Johann Strauss, Suzzato, Prokofiev et j'essaie de Valse Shostakovich, on arrive au Livre de la Jungle. Vous vouliez terminer de cette manière aussi un retour vers l'enfance ou un retour vers une certaine ironie
Non, c'est pas ironique, parce que je prends ça... Enfin, c'est un clin d'œil...
Ah non, mais c'est magnifique comme...
Mais c'est un clin d'œil que je prends très au sérieux. Je pense que dans ce disque de transcription-là en particulier, un des paris, c'est... c'est d'avoir le plus de langages différents, de références à des univers différents, à des instrumentations différentes, que ce soit la Renaissance, le baroque, le romantisme, le jazz, et de voir de quelle manière le piano peut à chaque fois se métamorphoser pour suggérer ces univers-là. Donc, pour moi, l'inclusion du jazz dans cet univers, elle me semblait cohérente. En tout cas, elle ne me semblait pas impossible, disons. Et alors, cette pièce en particulier, c'est une petite histoire familiale, c'est que c'était un cadeau que j'ai fait à Noël pour ma sœur. On a une petite tradition dans ma famille.
Elle est musicienne aussi.
Elle était pianiste amateur. Elle a fait autre chose, mais elle avait un très bon niveau. Elle adorait les chansons Disney, comme moi aussi d'ailleurs. Et à Noël, dans ma famille, on pioche chaque année une personne à qui on fait un cadeau un peu plus significatif au lieu de faire un cadeau à tout le monde. Cette année-là, j'avais pioché ma sœur et je m'étais dit, je vais tenter de faire une version pour piano. De fil en aiguille, la version s'est un peu étoffée. Elle est devenue assez injouable et donc c'est devenu un cadeau à moi-même. Voilà.
C'est un magnifique cadeau que vous faites à vous-même et à nous-mêmes, Florian Noack. On n'a pas parlé de la première symphonie de Prokofiev, on va peut-être terminer par là, qui est aussi une œuvre merveilleuse, qui a été très critiquée en son temps parce qu'il revenait à un certain classicisme, un hommage à Haydn.
Oui, je crois qu'il se réjouissait aussi dans son fort intérieur. Il y a une lettre en tout cas où il se réjouit déjà un peu à l'avance du petit scandale que ça va faire. Quoi. Donc. C'est une œuvre qui est à la fois un peu impertinente et irrévérencieuse. À la fois, c'est aussi une œuvre qui est très simple, qui est aussi pleine de gaieté, de joie de vivre, d'humour. Et donc, c'est une des transcriptions les plus difficiles du disque. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas tout à fait en l'écrivant, c'est que c'est une transcription qui tombe pas facilement dans les doigts, alors qu'en général, j'ai toujours eu l'impression d'arriver à faire quelque chose d'assez pianistique. Et c'est vraiment... c'est quelque chose de très périlleux, en fait. De très acrobatique.
Vous avez des confrères pianistes qui vous demandent ces transcriptions, qui, après les avoir écoutées, vous disent « Ah bah, est-ce que tu peux m'autoriser à... ?»
Oui, alors j'en ai. Il y a quelques transcriptions que je me permets de garder encore un petit peu pour moi avant de les
laisser dans le domaine.
Mais je sais que, par exemple, ma transcription de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, elle a déjà été enregistrée par d'autres pianistes... la valse de Shostakovich, je pense, c'est quelque chose qui est... Je vois maintenant plein d'autres vidéos, d'autres personnes qui la jouent, et donc voilà.
Enfin, moi, j'ai une tendresse particulière pour tout, mais ce concerto de Bach pour quatre claviers, c'est tellement jouissif comme musique, c'est un tel bonheur, une telle poésie.
Merci beaucoup.
Comme l'ensemble du disque. Mais en tout cas, Florian Noack, on a hâte de vous écouter dans ce type de répertoire, dans tous les répertoires, puisqu'on n'a pas toujours la chance d'aller vous suivre aux États-Unis ou ailleurs. Il me reste à vous remercier infiniment pour cet entretien.
Merci beaucoup.